It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
On Civil War, on Civil War, how long must we fight this? On Civil War, same old wounds we opened before, nobody wins. And on Civil War, the lines are drawn, gloves are off, smiles are gone, we're all talking tough. You curse me out and I curse back. Everything we love is under attack. The spirits are back in rags blue and gray. Thought they were gone, but they won't go away. On Civil War, on Civil War, how long must we fight this? On Civil War, same old wounds we opened before. Nobody wins. And on Civil War.
Le titre qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires n'a jamais été autant d'actualité. Il apparaît sur le dernier album d'une chanteuse américaine qui est un peu notre marraine, puisqu'elle fut l'une de nos premières invitées il y a bientôt 20 ans dans l'épopée. En nommant son dernier disque Uncivil War, un terme d'ailleurs repris par le président Biden lors de son investiture, notre invitée du jour évoque le risque de la désunion des États dits unis. Accueillons donc une femme engagée chez Mika Copeland. Soyez la bienvenue.
Thank you for having me.
Je précise que vous êtes actuellement à Chicago puisque les restrictions sanitaires ne nous permettent pas de nous retrouver en studio. Cela dit, nous allons tout de même converser ensemble et évoquer cette drôle de période que nous traversons tous et essayer de connaître votre sentiment sur la situation politique et sociale américaine de ce 21e siècle. Quelle est l'ambiance actuellement outre-Atlantique?
Je
pense que la population retrouve un peu d'espoir. Gageons que l'avenir permettra à ce pays d'être uni à nouveau. Espérons que les divisions disparaîtront au fil des mois. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, car il y a toujours ce sentiment de défiance entre les Américains eux-mêmes. Je trouve cela très triste.
Pensez-vous que la fracture entre les citoyens américains, républicains et démocrates peut disparaître avec Joe Biden?
Je pense que oui. C'est un homme d'expérience, il connaît les arcanes du pouvoir. Si un homme peut changer la donne, c'est bien lui actuellement.
Est-ce que nommer votre album Uncivil War, une guerre incivilisée, était un cri de colère, un message d'espérance ou la manifestation de votre écœurement?
C'est clairement un message d'espoir, mais c'est aussi l'expression d'un désespoir. Je n'y vois pas de colère de ma part, car je suis une Afro-Américaine depuis ma naissance. Et rien de ce qui se passe aujourd'hui ne m'étonne vraiment. Le racisme systématique aux États-Unis fait malheureusement partie de ma vie depuis que je suis née. J'essaye de ne pas devenir aigri. Je suis juste triste, car lorsque vous devenez parent, vous espérez que la vie future de votre enfant sera plus belle que la vôtre. Pour revenir à votre question, Uncivil War a été enregistré en 2019. Nous n'imaginions vraiment pas que la situation allait devenir insurrectionnelle. D'une certaine manière, nous ressentions peut-être déjà les signes d'une dégradation démocratique, d'une guerre qui n'a plus rien de civilisé, et cela ne nous plaisait pas du tout. Il est tout de même incroyable que le président Biden ait utilisé ce terme, « Uncivil War », Finalement, j'ai fait la une en même temps que le président des États-Unis.
Diriez-vous que cet album est le plus politique de votre discographie?
I don't think so.
Je ne pense pas.
I don't know. I think America's Child was pretty.
Je pense que mon précédent album, America's Child, était déjà un album politique. Je ne sais pas si mon message est politique. Je cherche seulement à alerter sur les injustices sociales que nous traversons. Mais je le fais d'une manière positive. J'essaye d'unir plutôt que de diviser. C'est véritablement le rôle que j'entends jouer désormais.
Est-ce que vous êtes devenue une militante pendant le mandat de Donald Trump?
It's funny. Everything changed for me.
Vous savez, tout a changé pour moi en 2008, quand je me suis rendue en Irak et au Koweït. Barack Obama était dans la course à la Maison Blanche, et c'est durant mon voyage au Moyen-Orient que j'ai appris son élection. Sur place, j'ai compris les sacrifices de ces soldats américains que je rencontrais et dont le rôle est essentiel pour nous permettre de vivre en paix. J'ai vraiment pris conscience de cela lors de ce déplacement, beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. On entend souvent parler de nos soldats en opération, mais lorsque vous êtes sur place, cela prend un tout autre sens. C'était à la fois effrayant et en même temps très enrichissant. C'est à ce moment-là que je me suis intéressée à ce qui se passait dans mon pays. Pour autant, je n'ai pas participé aux manifestations du mouvement Black Lives Matter. Je connaissais le danger dans la rue et je préférais protéger ma famille. Ma mère était très malade à cette époque et je ne voulais pas contracter le virus et maladroitement le lui transmettre. De plus, mon mari étant diabétique, il était aussi une personne à risque face à cette pandémie. Sans compter que mon fils, Johnny Lee, était encore tout petit à l'époque. Je devais donc veiller sur lui et il aurait été irresponsable de ma part, en tant que mère, de défiler dans les rues une pancarte à la main. Mais cela ne m'a pas empêché de dire ce que je pensais à travers les réseaux sociaux et ma musique, évidemment.
Est-ce que Clotilda's On Fire, le titre qui ouvre votre dernier album, est une chanson politique?
Well, it's a song to give people information. I mean, slavery happened and I feel like
c'est une chanson destinée à informer le public. L'esclavage a existé et malheureusement, aux États-Unis, on a plutôt tendance à vouloir ignorer ce passé violent. Ces moments dramatiques pour les Afro-Américains doivent être connus du grand public. Ce problème n'a toujours pas provoqué d'examen de conscience.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce bateau nommé Clotilda?
Absolutely. So Clotilda was a slave ship that they found off the coast of Alabama about 3 years ago now.
Clotilda était un bateau que l'on a retrouvé sur les côtes d'Alabama il y a 3 ou 4 ans. L'histoire est très ancienne. Quand l'esclavage a été aboli par Abraham Lincoln en 1865, beaucoup de négriers continuaient malgré tout de faire venir des esclaves depuis le continent africain. Cela était évidemment totalement illégal. Le capitaine du bateau a préféré brûler son embarcation pour qu'aucune preuve ne puisse l'incriminer. Le bateau a coulé dans la baie de Mobile en Alabama. Heureusement, les 110 esclaves avaient été transférés sur un bateau à vapeur fluviale au préalable. Les vestiges de ce bateau ont donc été retrouvés il y a peu. Et les descendants de ces esclaves africains, qui vivent aujourd'hui dans une ville appelée Africa Town en Alabama, ont décidé d'ouvrir un musée entièrement consacré à ce triste épisode. Peut-être que cela éveillera cette prise de conscience que j'appelle de mes vœux. N'oublions pas que l'ignorance engendre la défiance et donc le racisme. Nous devons faire face à ce problème dans notre pays et j'ai l'impression que ce combat-là est sans fin.
Écoutons cette chanson qui nous ramène aux heures sombres de la traite négrière.
All right.
Coming for you, hear the chains rattle, turn you into a slave, another piece of chattel. Across the seas, stormy waters, show no mercy, she was Satan's daughter, born to steal, bodies to sell, she had her own special place in hell. Matilda's on fire off the Alabama coast. Matilda's on fire. We're still living with a ghost. She took souls on a horrible trip. Her morning song was the crack of a whip. Once who survived died a long time ago. Most of them buried out at Old Plateau. But the pain and the memory will never go away. Her spirit still lives by the shores of the bay.
Clotilda's on fire, l'histoire effroyable du dernier bateau arrivé sur les côtes américaines depuis Ouida au Bénin, l'ancien royaume du Dahomey. Il transportait alors illégalement 110 esclaves africains que le capitaine Foster cachait dans les cales de son navire pour ne pas être inquiété par les autorités, même si à cette époque un blanc ne risquait pas grand-chose. Chez Mika Copeland, quelle était votre intention en mettant cette chanson en ouverture de votre album ?
Well, we love every song on this record. We just thought it sounded cool.
Je vais être honnête. J'aime toutes les chansons de cet album. Et je trouvais tout simplement que le rendu sonore de ce premier titre était très réussi. Voilà pourquoi il ouvre mon nouvel album. De toute façon, chacune des chansons de cet album porte un message auquel je tenais. Si vous écoutez attentivement l'album, vous y trouverez des messages. Peu importe l'ordre des chansons, chacune d'entre elles a une résonance particulière pour moi.
Every song has something special, you know, to me.
Est-ce que le fait d'être désormais une maman a accéléré votre engagement citoyen, dirons-nous ?
Oh, absolutely. You know, it's funny.
Absolument. Avant la naissance de mon fils, j'interprétais des chansons en fonction de mes préoccupations d'alors. Mais je n'avais pas ce désir de changer le monde. Depuis qu'il est né, tout a changé dans mon esprit. Je me suis dit que si je parvenais à convaincre une seule personne de penser différemment, j'aurais accompli quelque chose. Je sais que j'y suis parvenue aujourd'hui parce que l'on me parle de ces chansons que vous découvrez sur mon dernier album.
And I know that I have done that with my music because people tell me all the time, you know.
Est-ce que vous revendiquez davantage votre statut d'Africaine-Américaine aujourd'hui?
Oh, I mean, I don't have to to demand or claim it. I mean, that's how I'm seen.
Vous savez, je n'ai pas besoin d'exiger quoi que ce soit. Je suis une Afro-Américaine depuis toujours. Je ne ressens pas la nécessité de clamer qui je suis. Aux États-Unis, si vous êtes une Africaine-Américaine, soyez certain que les autorités le savent.
If you're African-American, they know it. And it wasn't just African-Americans, it was anyone who was.
Et cela ne concerne pas seulement les Afro-Américains. Cela concerne toute personne avec une couleur de peau un peu plus foncée. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire, mais c'est mon quotidien. Ça n'a rien de nouveau pour moi. Quand toute votre vie, vous avez été confronté à ce genre de défiance à votre égard, cela devient tristement une habitude. Cela n'enlève rien notre colère, mais cela fait désormais partie de notre vie. Je suis le témoin de ce genre d'agissement depuis toujours. Mon frère aîné a été confronté à ce racisme institutionnalisé. Il a deux fils qui, à leur tour, ne peuvent pas traverser la rue sans être intimidés. Nous connaissons cela depuis tellement longtemps.
You know, we've been experiencing it for a long, long time.
Chez Mika Copeland, vous avez eu la chance de rencontrer l'une des grandes activistes de notre époque, Mavis Staples. Que vous inspire cette grande figure de l'épopée des musiques noires?
Oh my gosh.
Oh mon Dieu.
It's your responsibility.
Dans ces moments-là, il faut absolument boire leurs paroles.
So what I do is I just listen.
Quand je rencontre de tels personnages, je me contente de les écouter. Mavis Staples est un concentré de joie et de bonheur. J'adore être à ses côtés. Cette femme a un grand cœur et je suis l'une de ses fans depuis toujours. Chaque fois que j'ai l'occasion d'être en sa compagnie et de lui parler, c'est un privilège. Je ressens la même chose avec beaucoup de mes aînés. Je parlais récemment avec Taj Mahal. Il venait de m'envoyer quelques chansons à écouter et je lui ai dit que B.B. King faisait la même chose quand j'étais gamine. Je prends beaucoup de plaisir à converser avec ces grandes personnalités. Il est tellement important de transmettre un héritage.
Il y a une chanson qui me rappelle l'esprit des Staple Singers sur votre album, c'est « Walk Until I Ride ». Est-ce que c'est un hommage aux courageuses chanteuses de gospel qui vous ont précédé ?
Absolutely. And especially the Staple Singers, because they were such a huge part.
Tout à fait. Ce sont justement les Staple Singers qui m'ont inspiré cette chanson. Car ce quintet vocal a fait partie du mouvement des droits civiques et interprété des chansons qui ont mobilisé et uni les combattants de la liberté.
And so that's how I think about it.
Je ne résiste pas chez Mika Copeland à l'envie d'écouter la ferveur gospel de ce titre, Walk Until I Ride.
Clouds opened up. Rain pouring from the sky, I'm in the air, trying to flag a ride, but the cabs don't go to my part of town. They just passing me by, not even slowing down. So I'm gonna walk until I ride. I'm gonna keep my head held high. They can try to take my freedom, they can't take my pride. I'm gonna walk, walk, walk until I ride. Four in the morning, my baby child was crying. Fever he had kept on burning high. Grab the phone, dialed 911 when I told them where.
Until I Ride, c'était un extrait du dernier album Uncivil War de Chemeka Copeland. Chemeka, vous avez le grand bonheur d'être très bien entouré sur ce disque. Je pense notamment à la présence de l'immense Steve Cropper, partenaire d'Otis Redding, Sam and Dave, Eddie Floyd, Wilson Pickett et tant d'autres. Est-ce que l'esprit de Stax Records, où officiait Steve Cropper, c'est-à-dire la réunion de musiciens blancs et noirs, talentueux, guide également vos choix artistiques ? Est-ce que votre label actuel, Alligator Records, rejoint cette philosophie de vie?
Oh que oui. À l'origine, c'est Booker T et NDMGs qui ont fait tomber les barrières raciales. Beaucoup de jeunes artistes de cette époque ne s'intéressaient pas à la couleur de peau de leurs homologues. Ils savaient que le public voulait tout simplement écouter de la bonne musique. Je pense que le label Alligator Records fonctionne de la même manière. Cela fait 50 ans que Bruce Iglauer et ses équipes enregistrent tout type de musiciens, quelles que soient leurs origines.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Bruce Iglauer, le patron d'Alligator Records?
So the first time I met Bruce was
Je pense que je devais avoir 16 ans à l'époque. C'est Buddy Fox qui l'a convaincu de venir me voir dans un petit club où je me produisais à New York. C'est la première fois que j'ai rencontré Bruce Iglauer. Je savais qui il était, je savais quel était son rôle dans l'industrie du disque. Mais j'étais si jeune. J'étais si jeune que je n'avais pas pris conscience de son importance. Je ne réalisais pas encore l'enjeu pour ma propre carrière. C'est bien plus tard que j'ai compris que cette rencontre fut déterminante. Quelque part, je suis heureuse d'avoir été naïve à cette époque, car j'aurais sûrement eu le trac en sa présence si j'avais compris ce qu'il représentait vraiment.
And I'm glad I didn't know, because I probably would have been really, really nervous.
Plus de 20 ans ont passé depuis ce premier album, Turn the Heat Up. Est-ce que tout cela est passé trop vite? Et que retiendriez-vous de ces 20 ans?
Oh my God, they flew by. And yes, it went quickly.
Bon sang, que le temps a passé. Ces 20 dernières années ont été exceptionnelles pour moi. J'espère que je serai encore très présente dans ce monde de la musique d'ici 20 ans. Ces 20 premières années ont été si incroyables que je ne parviens même pas à me souvenir de tout ce que j'ai vécu. Je sais seulement que j'ai beaucoup avancé dans ma vie, mais je n'ai rien vu passer.
Et quel moment retiendriez-vous de ces 20 ans?
You know, I remember growing up.
Ce dont je me souviens, c'est la maturité que j'ai acquise au fil des années, les relations amicales et professionnelles que j'ai su entretenir. Voilà ce qui me reste à l'esprit. J'ai tout de même eu la chance de monter sur scène avec les plus grandes personnalités du blues. Il est évident que ces images-là resteront gravées longtemps dans ma mémoire. Je pense notamment à ceux qui nous ont quittés.
Personnellement, je n'oublierai jamais votre prestation à la Maison Blanche en présence de B.B. King, les Rolling Stones, Buddy Guy, Gary Clark Jr. et évidemment Michelle et Barack Obama. Quel contraste avec ce que nous avons vécu ces dernières années, non?
Oh, absolutely.
Tout à fait. Peut-être y aura-t-il à nouveau de la musique à la Maison Blanche quand le virus aura disparu.
Quel souvenir avez-vous de cette prestation à la Maison Blanche?
You know, I remember a couple things. I remember.
Je me souviens d'une conversation avec B.B. King. Il me disait qu'il avait joué à la Maison Blanche plus d'une fois et qu'il avait rencontré tous les présidents depuis Gerald Ford. Mais il me précisait tout de même que rencontrer Barack Obama avait une saveur particulière pour lui. Je me souviens aussi avoir fait la queue pour me prendre en photo avec le président Obama. J'étais juste derrière Buddy Guy. Il s'est retourné vers sa fille et lui a dit « J'étais dans les champs de coton. Je suis aujourd'hui à la Maison Blanche. » J'ai failli pleurer. J'étais tellement heureuse d'être là à ce moment précis et de l'entendre prononcer ces mots. Il y avait beaucoup d'émotions à la Maison Blanche ce jour-là. Et j'ai réussi à faire chanter le président Obama.
Barack Obama singing with us, Sweet Home Chicago.
Est-ce que vous êtes confiante en l'avenir?
No, I'm not confident about anything.
Je ne crois plus en rien actuellement. Qui aurait pu penser que nous traverserions une pandémie, que nos vies en seraient changées de manière aussi radicale, que plus d'un million d'Américains auraient quitté ce monde à cause de ce virus? Je n'ai donc pas confiance en l'avenir. Mais je garde espoir et depuis quelque temps, je fais des prières. Et faute de mieux, je vais continuer.
No, I'm not confident about our future, but I'm hopeful and I pray a lot. So I'm just going to keep doing that.
Chez Mika Copeland, dans ces temps incertains, nous avons tous besoin de sérénité et de réconfort. Que diriez-vous de clore cette émission avec une love song?
Perfect.
C'est une chanson qui a été écrite par votre père, Johnny Clyde Copeland. C'est bien cela?
Yes, it was, and that's, you know, and it's perfect.
C'est exactement ainsi que je voulais clore cet album. On évoque trop souvent les problèmes que nous rencontrons, mais essayons de nous concentrer sur l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres.
Préférez-vous écouter sa version ou la vôtre?
You know, can't get any better than Johnny Copeland.
Vous savez, on ne fera jamais aussi bien que Johnny Copeland.
Voici donc Love Song par Johnny Copeland en 1991 sur l'album Flying High.
Get together. cherish the sound. If it wasn't for the blues, I don't think I would weigh over 90 pounds. But you coming home so strong. You got me singing a love song.
Love Song, c'était Johnny Copeland en 1991. Merci mille fois, Chemika Copeland, d'avoir pris le temps de converser avec nous depuis Chicago.
Merci beaucoup. I can't wait to get to see you again.
Est-ce que vous progressez en français?
Oh yeah.
On a tellement de temps pour nous avec ce confinement que d'ici notre prochaine rencontre, mon français se sera largement amélioré.
Je rappelle que vous participerez le 13 mars prochain à la célébration du 50e anniversaire d'Alligator Records avec Billy Branch, Toronzo Cannon et quelques autres. Et ce concert sera disponible sur Internet jusqu'au 11 avril.
Well, congratulations to Alligator. I mean,
eh bien, félicitations Alligator Records d'avoir tenu bon dans cette industrie du disque si fragile. C'est assez exceptionnel.
To keep going for all those decades is just pretty awesome. So, congratulations.
Merci beaucoup, Chemika Copeland, et félicitations pour vos 5 nominations aux Blues Music Awards.
Merci beaucoup. It's so great to hear your voice, Joe.
Oh oui, j'espère que nous nous reverrons dans un futur proche.
Exactement. La prochaine fois, on fera l'interview ici, à Paris.
Yes.
Merci beaucoup. Au revoir. L'émission du jour était réalisée avec grâce par Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants. Le journal.
Singing.